de William Eschler, donc dans l'histoire d'Église, et de sa collaboration avec Théodore Herzl. Bon, on n'était pas encore là, on était au moment où William Eschler avait seulement la vision que le temps était venu de la résurrection d'Israël. Et William Eschler, donc, pensait vraiment qu'il avait quelque chose à faire dans cette résurrection-là. En 1841, le gouvernement allemand décide de créer un évêché de langue allemande à Jérusalem. Le prince Frédéric de Bade, dont Eschler avait du fils duquel Eschler avait été précepteur, avance le nom d'Eschler pour occuper donc ce poste. Évidemment, c'est tout ce que Eschler pouvait souhaiter. Malheureusement, Eschler était un homme un peu trop marginal, et puis en plus de ça, il n'était pas juif, on voulait mettre quelqu'un qui était d'origine juive là-bas, de telle sorte que il n'obtient pas le poste qu'il avait pourtant convoité. Par contre, il est nommé chapelain de l'ambassade de Grande-Bretagne à Stockholm, et au printemps de 1885, il occupe le même poste à Vienne, cette fois-ci, il est muté à Vienne. 10 années passent par conséquent, au cours desquelles il s'ennuie vraiment en ferme, hein, il n'a pas grand-chose à faire. Et alors il a beaucoup de temps libre, puisqu'il suffit de faire quelques cultes de temps en temps. Il participe à des réunions, des rencontres mondaines, puis c'est à peu près tout. Donc il a beaucoup de temps. Et il passe ce temps à étudier les prophéties, surtout les prophéties de Daniel. C'est une époque aussi où il devient de plus en plus excentrique. Il fréquente donc toutes les têtes couronnées de l'époque, les grands ducs, enfin toute l'aristocratie de l'Europe, on peut dire, quoi. Bon, il n'est toujours pas marié, il restera vieux garçon toute sa vie. Et alors, il trouvait que des chaussettes, faut les laver, faut les recoudre, etc. C'est pas tellement pratique. Alors il avait trouvé un moyen beaucoup plus facile, il s'enveloppait les pieds de vieux journaux qu'il mettait directement dans ses chaussures, ça tenait très chaud, ce qui est vrai, le journal ça tient extrêmement chaud, vous savez peut-être au scoutisme, et comme ça, quand il y avait des princes ou des rois qui étaient en visite, il allait au dîner de gala avec du vieux journaux en guise de chaussettes. Alors inutile de vous dire que quand même ça a un peu nuit à sa carrière, ce genre de choses, les choses semblables, ça a un peu nuit à son développement. Et peut-être que s'il n'avait pas réussi à avoir le poste d'évêque anglican à Jérusalem, peut-être qu'il y avait aussi un peu de ça. Donc, il se rabat sur l'étude des prophéties. Il passe son temps à fouiller toutes les librairies de Vienne, tout ce qui touche à la Bible, de loin ou de près, il l'achète, il le lit, il fait des chartres, il se lève à des 4 heures du matin pour étudier la Bible, etc. Enfin, c'est un travailleur infatigable à ce niveau-là. Et c'est ainsi qu'il étudie notamment la fameuse prophétie des semaines, enfin toutes ces mystérieuses prophéties de Daniel où il y a les nombres, vous savez, qui sont donnés. Et il conclut que les 1260 jours de l'abomination et de la désolation qui sont annoncés dans le livre du prophète Daniel, chapitre 11 ou 12, je ne me souviens plus exactement, que donc l'abomination et la désolation sera installée au lieu très saint, c'est-à-dire sur l'endroit du temple, pendant 1260 jours. Alors il conclut que les jours, il faut les prendre dans le sens d'années, donc il faut compter 1260 ans, qui correspondent au temps des nations. Il arrive à la conclusion que c'est le temps des nations. Alors, l'abomination et la désolation, qu'est-ce que c'est? Il arrive à la conclusion que c'est la mosquée d'Omar qui se trouve sur le lieu très saint. Et donc, il fait partir le temps des nations de l'année où est construite la mosquée d'Omar. 637 après Jésus-Christ, il ajoute 1260 années, il arrive à l'année 1897. C'est-à-dire, on est à peu près à 2 ans de cette date quand il arrive à cette conclusion, on est en 1895. Et Eschler conclut que dans 2 ans, un événement important va se produire qui va marquer l'aube de la rédemption. Alors il attend cet événement avec beaucoup d'attention. Il engloutit tout son salaire en achetant des bouquins sur toutes ces questions prophétiques en particulier. Il fréquente les synagogues de Vienne, dans l'attente de ce grand événement qui doit se produire et qu'il annonce. Il annonce dans ses prédications, il prêche sur ces choses, il prêche devant les rois, devant les têtes couronnées, devant l'aristocratie qui participe à ces cultes dans la chapelle de l'ambassade de Vienne. Et il obtient d'ailleurs aussi un poste d'enseignement d'enseignant à l'université de Vienne. Et c'est ainsi qu'un beau matin, le 9 mars 1896, déambulant dans les rues de Vienne, faisant le tour habituel qui est le sien de toutes les librairies, il a son circuit, n'est-ce pas ? Soudain, à l'aventure d'une de ces librairies, il voit un livre, petit livre, s'appelle Judenstadt, l'État juif. Punaise. Et ça, c'est alors ça. Il entre, il achète le bouquin, il le lit d'un trait. C'est le bouquin de Theodor Herzl qu'il vient juste de publier, dans lequel il expose sa vision de la résurrection d'un État juif. Et il termine en ceci, de toute façon, cet État aura lieu, naîtra d'une manière ou d'une autre, et les Maccabées se lèveront encore, le monde sera enrichi par notre richesse, grandi par notre grandeur, etc. Alors, Theodor Herzl, Eschler est soulevé d'enthousiasme. Il se dit, ça y est, c'est l'événement que j'avais attendu. J'ai là le nouveau Moïse qui va prendre la tête du nouvel Exode, qui va ramener le peuple d'Israël dans son pays, conformément aux prophéties qu'il avait si soigneusement étudiées. Alors, il retourne à la librairie où il a acheté ce livre, demande qui est l'auteur, docteur Theodor Herzl. Ça ne lui dit rien. Theodor Herzl est un journaliste d'un journal viennois qui s'appelle Neue Presse, ça se dit, c'est ça, c'est comme ça que ça se dit, une presse, oui. Et qui en plus de ça arrondit les fins de mois en écrivant des pièces assez légères d'ailleurs, qui sont jouées dans les cabarets, les choses comme ça. C'est pas le lieu qu'un pasteur comme Eschler fréquente, bien entendu. Alors, Theodor Herzl, ça ne lui dit rien. Puis, il réfléchit un peu. Ah si, il a lu des articles de lui dans, justement, ce journal-là, comme vient de dire Colette. Et alors, il cherche sur un bottin, puis il trouve l'adresse. Il fait ni une ni deux. Il va chez Herzl. Il se fait annoncer, pasteur Eschler. Herzl, j'ai entendu parler de cet individu-là. Qui plus est un pasteur, c'est quand même un petit peu suspect. Qu'est-ce qu'il lui veut ? Herzl a beau être un juif assimilé, il est quand même juif. Bon, enfin, il demande qu'on le fasse entrer. Et Eschler l'interpelle dès qu'il a franchi la porte, après l'avoir salué du plus succinctement qu'on puisse faire, et il lui dit, voilà, vous êtes l'homme que Dieu a choisi. Ça fait des années que je vous attendais. J'ai parlé de vous au roi, aux toutes les têtes couronnées d'Europe. Dieu est avec vous, vous réussirez. Et à partir de maintenant, considérez que je suis à votre service et à celui de la cause de Sion à 100%. Quoi que ce soit que vous me demanderez, je le ferai. Herzl a cru qu'il avait affaire à un fou. Et puis, bon, il a quand même écouté poliment, puis... s'est rendu compte qu'il avait beau avoir un air un peu particulier, c'était quand même quelqu'un qui était sérieux, qui n'était pas n'importe qui plus est, puis c'était le chapelain de l'ambassade de Grande-Bretagne. Et qui plus est, les paroles d'Eschler avaient profondément ému Herzl, quoi. Et Eschler lui dit aussi ceci, vous êtes l'homme de Dieu, choisi par Dieu, le prophète. Pourquoi ? Parce que justement, vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Donc on ne pourra pas dire que vous allez ici accomplir ce que vous allez accomplir parce que vous croyez aux prophéties bibliques, justement vous n'y croyez pas, c'est pour ça que Dieu vous a choisi. Bon, c'était son raisonnement. Bien. Alors Herzl ne répond rien, il est un peu bouleversé par ce qu'il vient d'entendre. Et Eschler lui dit, écoutez, voilà, moi j'étais chapelain du grand-duc de Bade, qui est l'oncle de Guillaume II, le Kaiser. Par son intermédiaire, je peux vous faire avoir une entrevue avec Guillaume II et lui pourra éventuellement faire pression sur le sultan pour que le sultan accepte de vous donner ce qu'on appelait à cette époque-là la Palestine. Et Herzl se dit que peut-être effectivement la venue de cet homme un peu curieux est peut-être providentielle parce que C'était bien joli d'avoir la vision qu'il avait, mais lui n'était qu'un pauvre journaliste peu connu, n'est-ce pas ? Et avoir accès aux têtes couronnées, c'est quand même pas comme ça, surtout qu'en plus de ça, il était juif, avec tout l'antisémitisme qui régnait à Vienne et dans l'Europe à cette époque-là, n'est-ce pas ? Il se demandait comment il allait pouvoir obtenir des audiences, etc. Et voilà ce que, en quelque sorte, Dieu lui envoie sur un plateau, n'est-ce pas, cet homme qui, lui, a eu, de par son cheminement, de par son itinéraire, effectivement, contact avec tous ces grands personnages et qui peut le recommander auprès d'eux. Et donc, il accepte. Il accepte que Eschler fasse des démarches, écrive au grand-duc de Bade pour demander une audience au Kaiser. Rentré chez lui, évidemment, tout de suite, Eschler fait ça, il écrit à son ancien patron et lui rappelle toutes les prédications qu'il avait faites, d'ailleurs, quand il était là-bas, en lui disant qu'un jour, Dieu allait susciter un prophète ou un quelqu'un qui serait un nouveau Moïse, et il dit, voilà, je l'ai trouvé. C'est le docteur Theodor Herzl. Là aussi, vous avez l'occasion, vous, d'accomplir une œuvre de Dieu, n'est-ce pas ? Vous aussi, engagez-vous à fond, il était persuasif, Eschler, n'est-ce pas ? Engagez-vous à fond dans cette affaire, parce que Dieu le veut, Dieu vous a placé là où vous êtes pour que vous soyez aussi un instrument de l'accomplissement de son plan, et je vous demande de soutenir le docteur Theodor Herzl et de lui faire avoir un entretien auprès de votre neveu, le Kaiser. Alors, le grand-duc de Bade répond, en disant qu'il va faire tout son possible, il n'a rien à refuser à Eschler, n'est-ce pas ? Et, quelques jours plus tard, le 15 mars, Herzl lui-même vient chez lui, dans son appartement de l'ambassade, pour savoir où en sont les démarches. Alors là, Eschler a sorti le grand jeu. Il a décoré son bureau du drapeau qu'il a imaginé pour le nouvel État juif, n'est-ce pas ? Et la charte qu'il a dessinée avec donc la destruction de la mosquée d'Omar, le temple des nations, ça arrive, vous voyez, vous êtes là, à l'endroit de la charte, 1897, c'est là le début de la rédemption, c'est pas c'est vous, ça, hein, la prophétie vous concerne, etc. Et puis il a fait une carte, n'est-ce pas, de l'Israël messianique avec les frontières du pays promis, Montus à Herzl. Et pour couronner le tout, sur un vieil harmonium poussif et asthmatique, il lui joue l'hymne national, n'est-ce pas, qu'il a composé spécialement pour la circonstance. Eschler se demande s'il a eu raison de suivre un petit peu cet individu, si vraiment il n'y a pas quand même quelque chose qui n'est pas un petit peu fêlé là-haut. Mais finalement, il est un peu perplexe quand même quand il sort de là. Et Eschler lui montre la lettre qu'il a envoyée à Frédéric de Bade, et lui répète que vous êtes l'homme choisi par Dieu parce que vous ne croyez pas aux prophéties, alors vous n'essayez pas de les accomplir vous-même, les prophéties, c'est clair. Donc tout ça, ce sera l'œuvre de Dieu. Alors vous êtes conduit par Dieu, vous ne le savez pas, mais Dieu vous conduit. Et non seulement ça, mais Dieu a choisi deux pays pour vous aider dans cette tâche, l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont deux pays protestants. Voilà comment on voit les choses, Eschler, et il va jouer sur ces deux registres-là. Alors, quelques jours plus tard, enfin, même plusieurs semaines après, le 22 août très exactement, les deux amis se rencontrent à nouveau et Eschler expose son plan, dit voilà comment on peut faire, etc. Et, Frédéric est un tantinet antisémite, mais enfin, comme il n'a rien refusé à Eschler, Eschler peut dire à Herzl, vous pouvez compter sur l'appui du duc. D'ailleurs, il a écrit dans ce sens-là. Mais malgré la diligence du duc, l'entretien avec Guillaume II se fait attendre. Et c'est alors que, voyons que les choses traînent en longueur, parce que je ne sais pas que Guillaume II ait quelque chose contre l'entrevue, mais enfin, il a des choses plus importantes à faire que ça, et il ne donne pas suite, quoi. Hein. Et voilà que Eschler apprend un beau jour que Guillaume II s'apprête à faire une visite officielle à Constantinople, donc à capitale de la Turquie, au sultan. Il dit c'est l'occasion. Il va immédiatement vers Herzl et il lui dit voilà, essayez de devancer Guillaume II, demander une audience au sultan, et puis ensuite vous pourrez rencontrer Guillaume II pour que lui fasse pression sur le sultan pour appuyer votre demande. Voilà un petit peu quel est son plan. D'autre part, il dit à Herzl, voilà, dimanche prochain, je vais prêcher sur les prophéties bibliques, mon culte du dimanche. Il y aura l'ambassadeur, il y aura des personnalités très importantes qui sont là. Ce serait bien que vous les rencontriez. Je vous propose de venir assister à mon culte. Alors là, on voit la réaction d'Herzl, qui, bien que juif assimilé, là, c'est trop lui demander. Venir à un culte chrétien, il sait bien que Eichler est un ami des Juifs, qui est un ami d'Israël, mais il a toujours cette question, est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée? Et il écrit dans son journal à peu près ceci, donc Eichler m'a invité à participer à son culte. Finalement, j'ai décidé de ne pas y aller, j'ai peur qu'il cherche à me convertir. C'était à son lieu de la pensée d'Eichler. Ce qu'il voulait, c'était simplement c'est qu'il rencontre justement les personnalités qui seraient à ce culte et puis qu'il puisse nouer des relations qui lui seraient utiles ensuite pour son travail. Finalement, là, c'est une occasion manquée. Et d'autant plus que l'ambassadeur devait faire lui-même des lectures bibliques, n'est-ce pas, de telle sorte que finalement les choses tournent court. Et voilà ce qu'il y a, oui, voilà, c'est la citation exacte de ce que lui a dit, Eichler à Herzl. Ça fait 4 ans que vous attendez. J'ai parlé de vous à des princes, à des hommes d'État, à des dignitaires. J'ai préparé le chemin devant vous. L'heure est venue, vos projets réussiront. Considérez que je suis à votre service, au service de votre cause. Je vous le dis avec émotion, je vous le redirai toujours. Dieu avec vous, est avec vous et vous réussirez quoi qu'il arrive. Et ça a été le leitmotiv d'Eichler tout au long de l'aventure de Theodor Herzl. Dans les moments difficiles, il a toujours réconforté en disant bien, c'est un revers passager, il ne faut pas vous décourager, alors que parfois Herzl, mort de fatigue, de déception, de désillusion, de mépris, voire parfois de ses propres coréligionnaires, était sur le point de baisser les bras. Eichler dit non, vous réussirez, Dieu est avec vous et vous verrez un jour ou l'autre, ça débouchera sur quelque chose de positif. Et au bout de quelques mois, donc, l'œuvre de Theodor Herzl commence à être connue. Donc, un petit peu au-delà du petit cercle qu'il formait. Et Eichler, qui a une imagination fertile et qui n'arrête pas de réfléchir à ces choses-là, n'est-ce pas, sur les moyens d'aboutir, dit écoutez, il faudrait aussi obtenir l'appui des chrétiens orientaux. Eichler était un homme d'une grande lucidité, malgré ses dehors un peu originaux, et il avait compris que les chrétiens orientaux étaient sous la domination de l'islam, et que l'arrivée des juifs pourrait être une occasion pour les chrétiens orientaux d'échapper aussi au joug de l'islam. Et il avait dit à Herzl, ce sera aussi votre tâche, en quelque sorte, de libérer les chrétiens d'Orient de l'entreprise, justement, de l'islam. En juin 1897, Herzl lance le premier journal sioniste qu'il crée lui-même, dont il est le rédacteur en chef, qui s'appelle Die Welt. Le monde, ça veut dire, je crois, français. Et donc, le 29 et 31 août, il convoque à Bâle le premier congrès sioniste. Il y a 202 délégués venus de tous les pays d'Europe. C'est un énorme succès. Il a pour adjoint un psychiatre qui se nomme Max Nordau. Max Nordau était un psychiatre qu'il était allé consulter en tant que patient, parce que quand il était à Paris, au moment de l'affaire Dreyfus en particulier, Herzl avait rencontré Daudet, Alphonse Daudet, qui était antisémite au demeurant, mais enfin qui était... Tous les antisémites avaient des juifs qui étaient de leurs amis malgré tout, quoi, qui n'étaient pas comme les autres. Quoi. Et Herzl était de cela. Et Herzl lui avait parlé de son projet de création d'un État juif, et Daudet lui a dit, vous êtes complètement fou, devriez avoir un psychiatre. Et Herzl s'était dit, bah, peut-être qu'effectivement je suis fou, il faudrait que je le sois. Et alors il va voir un psychiatre juif qui se nomme Max Nordau, et il dit, voilà, peut-être que je suis fou, je vais vous exposer, vous allez me dire ce que vous pensez. Quoi. C'est un petit peu, vous savez, comme l'histoire de Lucky Luke, Max Nordau attrape le virus de Herzl, et il devient un des ardents sionistes, il va devenir le lieutenant de Herzl pendant toute son aventure, n'est-ce pas ? Et c'est avec lui qu'il ouvre le premier congrès sioniste à Bâle. Et il donne beaucoup de solennité, n'est-ce pas ? Il est acclamé comme un roi, d'ailleurs le roi Herzl, c'est comme ça que les délégués russes en particulier l'accueillent. Il est allé aussi entre-temps prendre langue avec les Rothschild, à Londres en particulier, parmi les juifs de l'Istend, vous savez, le prolétariat qui était avec l'autre prolétariat, celui dans lequel William Booth, à la même époque, prêchait l'évangile. Et là, il est acclamé avec un enthousiasme délirant. Ces masses juives voient le bout de du tunnel et se voient, dans les mois qui viennent, transportées à Sion. Bon, il y a encore du temps qui passera sous les ponts avant que ce rêve ne s'accomplisse, mais enfin, l'idée est lancée. Et donc, à Bâle, Herzl pose les bases du mouvement sioniste. Il crée l'exécutif, le congrès qui est le législatif en quelque sorte, une banque juive, un fonds de rachat des terres qui finance la colonisation, etc. Et tout le monde lit le psaume 137 et tous les délégués, main levée, font le serment: si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Au bout de... Eschler est là, bien entendu. Eschler participe à ce congrès. Il est un de ceux qui agit d'une manière infatigable en faveur d'Herzl. Il fait des conférences dans toute la ville de Bâle pour sensibiliser les chrétiens à ce grand événement qui a lieu dans leur ville, disant: vous devez soutenir ce mouvement qui vient de Dieu, etc. Le docteur Theodor Herzl est vraiment l'homme de Dieu. Enfin, il fait une apologie sans nuance d'Herzl, tellement qu'Herzl trouve parfois qu'il en fait d'ailleurs un petit peu de trop, ce qui est peut-être pas tout à fait faux d'ailleurs. Mais enfin, bon, il est tout entier dans la cause parce que c'est un homme entier. C'est un homme entier, quand il se jette dans quelque chose, il se jette à fond. Et donc, c'est la fameuse phrase de Theodor Herzl qui est bien connue après le congrès de Bâle. Vous avez sûrement entendu: à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le disais maintenant, tout le monde rirait de moi. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde en conviendra. Et c'est effectivement 49 ans plus tard, 1940. 51 ans plus tard, donc que Ben Gurion proclame l'État d'Israël. Quoi. Bien, alors, après cette affaire, Herzl est complètement au bout du rouleau, il est fatigué, il commence à avoir des problèmes de santé. Et l'entretien avec Guillaume II ne se fait toujours pas. Et alors, Par contre, le voyage du Caisse à Constantinople prend forme, tant et si bien qu'en octobre, Eschler s'embarque lui-même à Constantinople pour préparer le voyage d'Herzl. Herzl le suit quelque temps plus tard par l'Orient Express. Il arrive à Constantinople et là, il a la plus grande difficulté à obtenir une audience du sultan. Il rencontre des ministres, mais le sultan refuse de le recevoir. Par contre, il le décore de l'ordre de je ne sais pas quoi, enfin d'un ordre honorifique dont Herzl n'a que faire, n'est-ce pas ? Et il était même tenté de refuser la décoration, puis bon, on lui dit quand même que ce serait une insulte au sultan que de refuser cette décoration. Bon, il accepte. Il accepte la décoration, mais il est bredouille. Et c'est alors que, précédant le Caesar, eh bien, il s'embarque pour Jaffa. Le Caesar doit aussi visiter la Terre Sainte. Et en arrivant à Jaffa, Eschler trouve une lettre de Frédéric de Bade lui annonçant que le Caesar est prêt à recevoir Eschler et prêt à recevoir Herzl à Constantinople, puis ensuite en Terre Sainte. Alors, tout heureux, Eschler écrit à Herzl, qui est toujours à Constantinople, en lui disant: bien, voilà, mettez-vous en contact d'urgence avec l'ambassade d'Allemagne à Constantinople et une audience avec le Caesar vous est garantie. Et la rencontre a lieu le 16 octobre. Herzl a l'occasion d'exposer à Guillaume II son projet par le menu. Guillaume II l'écoute avec beaucoup d'attention et lui dit qu'il verrait ça d'une manière tout à fait sympathique, d'autant que Herzl lui dit que l'État juif tel qu'il le conçoit devrait être un protectorat allemand. Eschler, comme Herzl, pense que la résolution de l'État juif doit se faire par l'intermédiaire de l'Allemagne. L'Allemagne est en pleine expansion coloniale, qui est un allié justement de l'Empire ottoman, l'homme malade de l'Europe, n'est-ce pas ? Et il demande donc à Guillaume II de demander au sultan ce que lui n'a pas pu obtenir dans l'audience manquée, c'est-à-dire qu'en échange du remboursement de la dette de l'Empire ottoman, qui était un problème endémique de l'Empire ottoman dans la fin sur le déclin, quoi. Les Juifs s'engagent donc à rembourser la dette de l'Empire ottoman, en échange de quoi ils demandent simplement l'autorisation de s'installer en Israël, non pas comme un État indépendant, mais comme un foyer national. un foyer national qui serait sous l'Empire ottoman, c'est-à-dire que les Juifs seraient sujets ottomans, et ils sont même prêts à faire le service militaire comme les autres, n'est-ce pas? Mais vous savez, c'est l'époque du régime des capitulations, ça veut dire que les puissances occidentales sont considérées comme protectrices d'un certain nombre de minorités dans l'Empire ottoman. Par exemple, les chrétiens du Liban sont protégés par la France, les orthodoxes sont protégés par la Russie, relèvent de la Russie en quelque sorte. Bon, alors l'Allemagne aussi aurait, par l'intermédiaire des Juifs, un pied aussi dans ce régime de capitulation de l'Empire ottoman. Bon, toutes choses qui ne peuvent qu'évidemment avoir l'approbation de Guillaume II, n'est-ce pas, dans la politique coloniale qu'il envisage. Alors il dit à Hetzel qu'il est favorable à ce projet, qu'il va donc s'entretenir avec le sultan à ce sujet-là. Entre parenthèses, c'est dans cet entretien aussi que Hetzel apprend de la bouche même de Guillaume II que Dreyfus est innocent. C'est l'époque où l'affaire Dreyfus bat son plein en France, n'est-ce pas? Et donc, il apprend qu'il en est ainsi. Alors, l'entretien avec le sultan a lieu ensuite entre Guillaume II et le sultan. Et effectivement, Guillaume II dira un mot au sultan pour s'entendre dire une fin de non-recevoir, n'est-ce pas? L'Empire ottoman, les musulmans ne peuvent pas donner à des infidèles la terre sainte de l'islam. Finalement, c'est le même problème que celui qu'aujourd'hui avec Arafat et consorts, n'est-ce pas? C'est déjà la même réaction. Mais par contre, le sultan est d'accord pour une colonisation limitée, à condition que les juifs soient dispersés dans toute la Palestine, ne forment pas un corps, n'est-ce pas, pour mieux les pouvoir les contrôler, bien sûr. Et bien entendu, s'ils veulent éponger la dette de l'Empire ottoman, ils seront bien sûr les bienvenus pour ça, quoi. Devant le refus du sultan, Guillaume II n'insiste pas. Il n'a pas l'intention de se battre pour cette affaire-là. Si le sultan avait dit oui, bon, bah, il aurait poussé l'avantage. Mais là, comme il se heurte à une fin de non-recevoir, bon, il laisse tomber. C'est pas une de ses priorités. Tant et si bien que la démarche d'Hetzel se borne à un échec. Ça, il ne le sait pas encore. Alors, la deuxième rencontre va avoir lieu à Mikvé Israël, directement en Terre Sainte. L'empereur visite une colonie qui a été créée par des mécènes juifs à Mikvé Israël, une plus ancienne colonie, une école d'agriculture qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Et Hetzel, donc, a été prévenu que là, le Kaiser lui accorderait quelques minutes d'entretien. Et donc, le Kaiser arrive à cheval, dans une escorte formidable, n'est-ce pas? Hetzel l'attend en grande tenue, n'est-ce pas, avec tous ses amis autour de lui, dont Eschler, bien sûr, Max Nordau, Wolfson, qui deviendra son successeur à la tête de l'exécutif juif à sa mort, et d'autres. Wolfson a un appareil en photo pour immortaliser l'événement. Et puis donc, le cortège impérial arrive, précédé par les janissaires, sabre clair, ça. Et l'empereur a un haut de corps quand il voit Hetzel et puis son équipe. Il est mal à l'aise parce qu'il sait bien qu'il n'a pas tenu en quelque sorte ce qu'il avait promis. Alors il s'approche de Hetzel, ou plutôt Hetzel s'approche de lui, et il se penche sur son cheval comme ça. Et puis ils vont échanger des banalités. « Oh, il fait chaud, vous avez fait un bon voyage, Majesté. Oh là là, il fait chaud, c'est un pays qui est plein d'avenir, dit le Kaiser. Hein. Ah, il y a des grandes possibilités dans ce pays, mais il faudra beaucoup d'eau, beaucoup d'argent. Oui, dit Hetzel, c'est à peu près ce que je pense aussi. Bon, eh bien, bon voyage, c'est à peu près ça, quoi. » Et l'entretien se bornera à ça. Wolfson a eu le temps de faire quelques photos pendant que l'empereur était penché sur son cheval pour parler à Hetzel qui était en bas. Et quand il a fait les photos, il dit, eh bien, c'est formidable, avec ces photos-là, elles valent de l'or. S'empresse d'aller les faire développer, pas de chance. Les photos à cette époque-là ne sont pas encore très, très au point. C'est assez loupé. Finalement, on arrive à les rattraper avec des montages, comme il en a fait deux, trois. Avec deux, trois, on arrive à en faire une. C'est peut-être la photo que vous avez vue dans des bouquins sur l'histoire de l'État juif. On voit une mauvaise photo, n'est-ce pas, de l'empereur penché avec Hetzel en bas. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo, enfin, elle est très connue toujours. Donc, nouvel échec. Hein. Et en même temps, donc aussi, Hetzel était intervenu auprès de l'empereur, déjà à Constantinople, pour demander qu'Eschler soit nommé évêque de Jérusalem. Il n'avait pas oublié son ami, vous voyez. Même ça aussi, ça n'aboutira pas. Oui, c'est chaud, on peut ouvrir un peu. Enfin, une dernière rencontre a lieu toujours à Jérusalem, le 2 novembre. Le Kaiser a un camp. Quand il loge sous la tente à Jérusalem, avec toute son escorte, Eschler essaye d'avoir un nouvel entretien avec le Kaiser. C'est très difficile, on dit que le Kaiser va écourter sa visite, et l'équipe sioniste qui est à Jérusalem passe par des hauts et des bas, le moral baisse et monte selon les nouvelles du moment. Et finalement, le 2 novembre, Eschler arrive à l'hôtel où Herzl en disant « Dépêchez-vous, le Kaiser vous reçoit à 3 heures, j'ai réussi à vous avoir une rencontre. » Alors, tout le monde se précipite là-bas, c'est pas bon, et effectivement... le Kaiser accepte de recevoir à nouveau Eschler, c'est le troisième et dernier entretien qu'il lui accordera. Il reste vague finalement, notamment il y a Herzl se rend compte que le ministre des Affaires étrangères allemand, von Bülow, est absolument contre le projet et que il fait des remarques dans l'entretien auquel il participe qui sont pour but de saper la confiance du Kaiser dans le projet sioniste. Alors, le lendemain, le Kaiser repart en Europe, et Herzl aussi. Herzl qui est devenu suspect aux autorités ottomanes, qui se demande qu'est-ce que veut cet individu-là, et qui n'ont aucune confiance en lui. Alors, pour échapper à une éventuelle une arrestation, il se rend à Jaffa le jour même. Il rate le bateau qui partait pour l'Europe. Il doit passer la nuit à Jaffa, il y a des émeutes contre lui et il sent que le terrain brûle. Et notamment, on l'accuse aussi d'être, parmi les Juifs, d'être un missionnaire à la solde des protestants, à cause justement de l'amitié d'Eschler. Il est obligé de dire à Eschler de se tenir un petit peu tranquille, de ne pas trop parler de lui autour, de ne pas trop faire de bruit. C'est vrai qu'Eschler est un petit peu trop exubérant à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, lui, Eschler, reste en Palestine, alors que Herzl, le lendemain, reprend le bateau pour l'Europe. C'est que Eschler a une nouvelle idée, n'est-ce pas, qui lui a traversé la tête, c'est de retrouver l'Arche d'Alliance et l'étape de la loi. Il est persuadé qu'elles doivent exister quelque part dans le désert de Juda, alors il loue des chameaux, et voilà qu'il se met à sillonner en tous sens le désert de Juda à la recherche de l'Arche d'Alliance. Un peu de plus, et c'est lui qui allait redécouvrir les fameux manuscrits de la mer morte, à défaut de retrouver l'Arche d'Alliance. Il prend contact avec tous les missionnaires qui travaillent en Israël et il les exhorte à aider le retour des ossements desséchés. Prêche sur la prophétie d'Ézéchiel. Par contre, Eschler a très vite compris qu'il n'y a rien à attendre de Guillaume II et qu'il faut se tourner directement vers le sultan. Le 9 mai 1901, Herzl retourne à Constantinople par l'Orient Express et le 23, il rencontre le sultan. Cette fois-ci, le sultan accepte de le recevoir. C'est un échec. Rien n'en sort parce que le sultan est décidé à ne rien donner. Eschler conseille à Herzl, voilà, il y a un autre, je crois que la carte allemande, il ne faut pas trop y compter. La carte ottomane, elle est fermée. Le sultan lui dit ceci. Il dit, écoutez, nous ne pouvons pas vous donner nos terres, ce n'est pas possible, même si vous remboursez notre dette, ça nous aiderait considérablement. Herzl avait pris une image, vous savez l'histoire d'Androclès et du lion, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Androclès était un chrétien de l'église primitive qui avait été condamné à mort, enfin, qui avait d'abord été exilé dans le désert, où il avait rencontré un beau jour un lion qui s'était enfoncé une grande épine de cactus dans une patte et qui n'arrivait pas à l'extraire. Alors, Androclès, pris de pitié pour l'animal, s'était approché de lui et le lion souffrait tellement qu'il s'était laissé soigner. Et Androclès lui avait retiré l'épine de la patte. Et quelque temps plus tard, Androclès a été arrêté, condamné à mort, jeté dans l'arène, livré au lion. Il se trouvait que le lion qui devait le manger était le lion qu'il avait sauvé, qu'il avait soigné. Quelques années auparavant, le lion l'a reconnu et puis donc lui a fait des joies au lieu de lui le croquer, si bien qu'il a eu la vie sauve. Alors, Herzl raconte cette histoire au sultan, il dit, écoutez, voilà, vous êtes le lion, moi je suis Androclès. Vous avez une épine énorme dans le pied, c'est votre dette. Moi je suis Androclès, je viens ici, il n'a pas un sou. Herzl, pas un sou. Mais il se fait fort de demander à tous les grands banquiers juifs, n'est-ce pas, de l'aider à rembourser la dette du sultan. Alors le sultan dit que ce serait très intéressant, bien sûr, mais que le prix qu'il lui demande, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il lui dit ceci, attendez un peu, et si un jour mon empire est démembré, vous obtiendrez la Palestine pour rien, ce qui sera d'ailleurs. Mais il dit, moi, je peux pas prendre le risque de démembrer mon empire. Donc échec, échec total. Et alors Eschler dit à Herzl, il faut maintenant jouer la carte anglaise. Il y a un deuxième pays, qui est un pays protestant, qui est un pays marqué par la Bible, où on peut vous aider, c'est l'Angleterre. Et lui, qui était à la fois moitié anglais, moitié allemand, a aussi des ouvertures en Angleterre, et il va donc permettre à Herzl de rencontrer les membres du gouvernement anglais. Et notamment un certain Chamberlain, qui est ministre des colonies à cette période-là, et qui accepte de donner des terres de remplacement aux Juifs. Le Mozambique, Chypre. Bon, ça, Eschler ne veut pas entendre parler. Lui, c'est la terre promise ou rien d'autre. Hein. Mais alors, il y a d'autres propositions qui peuvent être intéressantes. Chypre, n'en parlons plus. Mais par contre, le Sinaï, et en particulier le nord du Sinaï, la région des Larish. Et là, Eschler conseille à Herzl d'accepter. Il dit, oui, là, ça peut être une base de départ pour ensuite pénétrer dans le pays promis. Là, à nouveau, là, une expédition sioniste est envoyée sur place pour se rendre compte de l'état du pays. Herzl lui-même les rejoint. De là, il passe en Égypte. Il rencontre le haut-commissaire anglais en Égypte qui lui dit qu'il faut quand même l'aval des autorités égyptiennes qui sont en principe autonomes, bien qu'étant protectorat anglais. Alors Herzl dit, mais ce serait intéressant pour l'Angleterre, vous auriez là un état tampon, etc. Oui, dit le ministre, qui n'est pas un homme très sympathique et très ouvert aux idées d'Herzl, dit, mais il faut l'aval du Khedive, n'est-ce pas, qui est le responsable de l'Égypte. Alors entretien avec le Khedive, qui comme le sultan refuse net. Il n'en savait pas question de laisser les Juifs s'établir, même dans la région des Larish. Herzl promet mont et merveille, de l'argent, du développement, etc. Le Khedive ne va rien entendre. Alors, à nouveau, échec. Cette année-là, Herzl écrit un livre, un roman, qui s'appelle Atneland. Je crois qu'on a traduit en français par « Terre ancienne, terre nouvelle ». C'est à peu près ça. Hein. Ce qui se dit en hébreu Tel Aviv, et la ville de Tel Aviv qui va naître quelques années plus tard portera son nom à partir justement de la vision d'Herzl qui avait imaginé effectivement qu'une grande ville pourrait se trouver au nord de Jaffa. Quoi, hein. Alors là, dans ce roman d'anticipation, il évoque les coopératives agricoles, un canal qui relierait la mer Méditerranée à la mer Morte et qui ferait fonctionner des centrales électriques, la contribution des Juifs du monde entier, des centres scientifiques, Jérusalem, centre mondial de prière, Jérusalem étant extraterritorial, il veut laisser ça aux nations parce qu'il y a à cause des lieux saints, que lui, comme il n'est pas très religieux, il n'a aucune ambition sur Jérusalem. Et puis là même à Jérusalem, il y a même un siège épiscopal où se trouve un certain révérend Hopkins dans son roman, qui ressemble point par point à Eschler. Quoi. C'est évident que c'est le. D'ailleurs, Eschler ne s'y trompe pas, il écrit une de ses lettres qu'il signe à Herzl en disant « Votre très dévoué révérend Hopkins ». Il s'est reconnu évidemment dans le bouquin d'Herzl. Et c'est cette même année qu'éclatent les pogroms de Kitchinev. Là, des centaines de Juifs sont tués, d'autres sont obligés de fuir, la Russie, n'est-ce pas ? Et Herzl dit qu'il faut qu'on aboutisse d'une manière ou d'une autre. Là, la situation devient urgente, ça piétine. Il reprend contact avec le ministre anglais des colonies qui dit, écoutez, voilà, l'autre jour, en voyageant dans l'océan Indien, j'ai découvert un nouveau pays, l'Ouganda. Je lui dis, tiens, voilà un pays pour le docteur Herzl. Si la côte est très chaude, l'intérieur du pays est tempéré, je dis, tiens, là, on pourrait mettre les Juifs de ce bon docteur Herzl. Et il offre l'Ouganda, donc, à Herzl en remplacement de la Palestine, dont le sultan ne veut pas entendre parler. Alors, bon, Herzl hésite. Puis devant la situation dramatique des Juifs, de Russie en particulier, bon, il dit, tant pis, va pour l'Ouganda. Mais alors là, dès qu'Eschler entend parler du plan Ouganda, alors là, il se rebiffe. Pour lui, il n'y a qu'un seul pays qui peut être utilisé pour, pour être le foyer national juif, c'est évidemment le pays promis. Et c'est le seul désaccord qu'il y aura entre Eichler et Herzl pendant toute leur existence. Mais il n'est pas le seul, n'est-ce pas, à agir de cette manière-là. Cette même année, donc, 1903, au congrès sioniste de Bâle, qui a lieu tous les ans, 177 délégués sur 220 votent contre le projet Ouganda. Et chose qui étonne Herzl au plus haut point, c'est que la majorité de ceux qui votent contre sont justement les délégués russes. Ceux qui devraient être le plus à la recherche d'une solution, quelle qu'elle soit, et c'est ce que dit Herzl, je vous offre une solution qui n'est peut-être pas idéale, mais enfin, qui vous permettra de résoudre vos problèmes en immédiat. Et les délégués sortent, tous les Russes sortent, quittent le congrès. Alors Herzl est bouleversé, il est atterré, il va les voir dans la salle où ils sont rassemblés, c'est une véritable sécession, c'est un coup de force, c'est une scission dans le mouvement sioniste. Et alors, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors, il lui dit, Herzl, tu es un traître. Ça, c'est une parole qui lui va droit au cœur, qui lui fait mal. Un traître? Quand, en 1897, premier congrès, tu nous as fait jurer la main levée, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Bon, alors, Herzl, d'accord, j'ai compris. Mais bon, c'est un coup dur pour lui. Et notamment, cette désignation, un traître, n'est-ce pas, ça... Il le prend vraiment à cœur, et alors là, la maladie qui le rongeait déjà depuis un certain temps, il a des problèmes cardiaques d'une part, puis d'autre part, commence à être atteint par la tuberculose qui fait des ravages à cette période-là. Alors il se tourne vers Eichler, et Eichler lui dit, ben, ils ont raison, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il dit, voilà, moi, je prie trois fois par jour, tournez vers Jérusalem pour que Dieu vous ramène à Sion, comme le faisait le prophète Daniel. Et Herzl s'alite. Et il est clair qu'il crache le sang, c'est la fin qui arrive, n'est-ce pas? Et le 2 juillet 1904, Eichler le visite pour la dernière fois. Et il se rend compte qu'il a affaire à un mourant. Il se met à pleurer. Et c'est alors que Herzl l'interpelle, lui dit « c'est pas le moment de pleurer hein. ». C'est pas comme ça que deux vieux amis doivent se quitter. Vous êtes mon ami et... plutôt que de pleurer, donnez-moi un mot d'encouragement. Et Duvernois a écrit d'une manière magnifique cette dernière rencontre entre les deux amis. Voilà ce qu'il dit. Eichler sort sa Bible et il lit le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Et puis il déclare, la vie est un pèlerinage vers le royaume. Vous êtes déjà vainqueur, mon ami. Vous nous précédez dans le royaume et dans la gloire messianique. Vous reviendrez à Jérusalem avec votre roi. Ce ne sera plus long maintenant. Vous avez fait la brèche, vous êtes déjà vainqueur. Herzl répond, saluez-les tous pour moi. Dites à mon peuple que j'aurai donné le sang de mon cœur. Eichler sort de la chambre bouleversée. Il dit, n'était pas digne de lui. Deux jours après, Herzl s'est éteint. Voilà, donc c'est la fin dramatique d'Herzl. Bon, je parlais avec Duvernois de cette mort d'Herzl. Et il m'a dit que donc il n'avait pas pu tout écrire ce qui s'est passé, n'est-ce pas? En fait, en privé, Duvernois m'a dit que Eichler était allé beaucoup plus loin dans le témoignage rendu à Jésus-Christ, quoi, hein, auprès d'Herzl, et que bon, il y a de bonnes chances de penser que Herzl est mort dans la foi au Messie Jésus, au Messie Yeshua, quoi. Alors donc. Les funérailles ont lieu quelque temps, deux jours après, une foule immense. C'est une véritable raz-de-marée humaine, n'est-ce pas, qui accompagne Herzl à sa dernière demeure. Et Eichler est là et il amène un petit sac de terre d'Israël qu'il place dans le cercueil sous la tête d'Eichler pour qu'il repose sur la terre d'Israël, sans savoir que... 53 ans plus tard, le gouvernement d'Israël fera ramener en grande pompe le corps d'Herzl du petit cimetière de Vienne où il a été enterré pour l'enterrer en grande pompe sur le mont qui porte son nom aujourd'hui, le mont Herzl. Alors, Eichler va survivre à Herzl 25 ans encore. Et là, il tombe dans le dénuement le plus total. Il vit dans des conditions... ultra spartiate, mais il continue à militer à fond dans le mouvement sioniste. Et Avant de mourir, dans son testament, Herzl a dit ceci, vous n'oublierez jamais ce qu'a fait Eschler pour nous. Hein. Et d'ailleurs, il a demandé qu'on lui donne une petite pension, qui lui sera fidèlement versée jusqu'à sa mort. D'ailleurs, c'est à peu près tout ce qu'il a pour vivre, ce que lui donnent ses amis sionistes. Les amis chrétiens l'ont complètement abandonné, n'est-ce pas ? Alors, il continue à fréquenter les synagogues. Il a une grande barbe, n'est-ce pas ? Les juifs là-bas le prennent pour un rabbin, on le salue, rabbi, un rabbin vénérable, n'est-ce pas ? Il mourra très vieux, à près de 100 ans, 90, quelques années, 99 ans si je crois, quelque chose comme ça. Et pendant toute cette période de son existence, il sera toujours d'une activité débordante pour la cause de Sion, et notamment dans l'étude des prophéties. Et alors, c'est le grand philosophe juif Martin Buber qui disait ceci, n'est-ce pas ? Il avait rencontré... aux environs de 1911, si ma mémoire est bonne. Et Eschler lui a dit à peu près ceci. J'ai compris en réétudiant les prophéties ces derniers temps que je m'étais trompé sur la manière dont l'État juif allait renaître. J'ai cru que les nations allaient contribuer à cette renaissance de l'État juif. Mais aujourd'hui, j'arrive à la conclusion que les nations allaient être contraintes par Dieu d'accomplir sa volonté dans ce domaine-là, mais contraintes par Dieu. Alors Buber lui dit, mais comment vous pensez que Dieu va les contraindre ? Alors il a dit, il faudra une guerre, et une guerre terrible pour votre peuple, et ça sera une guerre mondiale. Et Buber a dit, c'est le premier que j'ai entendu parler d'une guerre mondiale. Et ce fut la Première Guerre mondiale, 1914, au cours de laquelle... L'Empire ottoman sera complètement démembré, et au terme de la Deuxième Guerre mondiale, la première foyer national juif au terme de la déclaration Balfour. Et là, ce que le sultan avait dit s'accomplit, les Juifs vont recevoir pour rien le pays pour lequel, en quelque sorte, Herzl a donné sa vie. Et la déclaration Balfour est évidemment pour Eschler une grande joie. Et puis, les années passent, Eschler mourra en 1925. Et toujours aussi lucide. Et là aussi... les dernières années, les derniers mois de sa vie ont été passés à sillonner toutes les synagogues, les congrès juifs, les congrès sionistes, les églises chrétiennes qui acceptaient encore de le recevoir, elles étaient très peu nombreuses, et les mettant en garde contre l'hitlérisme. Pas encore l'hitlérisme, mais enfin, quelque chose qui ressemblerait à l'hitlérisme. Il avait prévu l'hitlérisme. Et il a dit ceci avant sa mort. Une partie de votre peuple devra être sacrifiée pour que vous puissiez retrouver votre patrie biblique. Il a dit ça au leader sioniste Chaim Sokolov. Une partie de votre peuple devra être sacrifiée. Il avait prévu la Shoah. Une lucidité prophétique extraordinaire. Il meurt donc, non c'est pas 98 ans, c'est 88 ans, pardon. Il meurt le 30 janvier 1931. Donc au moment où ce qu'il a prévu commence à s'accomplir, c'est le début de la montée d'Hitler, à l'âge de 88 ans. Et bon, aujourd'hui, Eschler est tombé pratiquement dans l'oubli et considère que c'est une de nos tâches aussi, nous, chrétiens aimés d'Israël, de réveiller sa mémoire, de renouveler en quelque sorte. Bon, on était un petit peu aussi dans la lignée qui était la sienne. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand il est mort aussi, la petite chambre qu'il occupait, il vivait vraiment dans la condition les plus spartiates. Eh bien, toutes ces chartes, tous ces écrits, tout ça a été enlevé. Et on ne les a jamais retrouvés. Il avait des tonnes de cahiers qu'il avait écrits sur les prophéties, tout ça. Ça il ne reste plus rien du tout. L'Église anglicane a mis la main dessus et a tout détruit. Je vais vous montrer la haine qu'il avait su susciter dans les milieux chrétiens à cause justement de la vision qui était la sienne. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire de cette contribution des chrétiens à la résurrection de l'État d'Israël, et de l'œuvre de Dieu par rapport à Israël, que ce soit donc Yosef Rabinovitch, dont on a parlé la dernière fois, que William Eschler cette fois-ci. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Bien, toujours dans cette question de la résurrection de l'État d'Israël, le 19e siècle est aussi l'époque où les chrétiens redécouvrent la Terre Sainte. Ça commence avec l'expédition de Bonaparte en 1799, la fameuse expédition d'Égypte qui se termine justement sous les murailles d'Akko. Napoléon a emmené avec lui tout un ensemble de savants, de cartographes, de géographes, de botanistes, d'orientalistes, enfin disons de toutes sortes de gens. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, l'Orient est devenu terra incognita pour les Occidentaux. Bon, l'expédition d'Égypte, comme on le sait, se termine de manière négative, c'est l'échec total de Napoléon, mais soudain, le goût de l'Orient a été redonné en Occident. L'Occident avait cessé de s'intéresser à l'Orient depuis l'époque des croisades, et l'expédition de Bonaparte, qui était sioniste entre autres, et il avait comme but, un de ses buts de guerre dans cette fameuse expédition biblique, c'était de reconstituer un État juif. Et au moment où il était parti pour l'Égypte, il avait demandé à tous les Juifs de se rallier à ses drapeaux, n'est-ce pas, et de créer un État juif qui serait évidemment protectorat français, cette fois-ci pas protectorat allemand, comme l'avait pensé Herzl. Et c'est la raison pour laquelle, après l'expédition d'Égypte, eh bien, les Occidentaux vont réexplorer la Terre Sainte à fond. Et souvent pour des raisons spirituelles, parce que justement on se rend compte que la Terre Sainte, l'Israël est la Terre Sainte. C'est l'époque du romantisme, et le romantisme aussi évidemment s'intéresse à toutes ces choses, à toutes ces racines. C'est pas, il y a une espèce d'engouement pour l'Orient qui fait partie de la pensée romantique d'une manière générale. Et ainsi on va voir déferler, si j'ose dire, sur la Terre Sainte pendant toute la durée du XIXe siècle une foule de gens. Hommes ou femmes, de toute dénomination, de toute religion, de toute nationalité. Parmi les gloires françaises qui ont été parmi les premières à visiter la Terre Sainte à cette époque-là, il faut noter Chateaubriand. Chateaubriand, donc, qui a écrit le fameux livre Itinéraire de Paris à Jérusalem, qui est vraiment dans le style de Chateaubriand, quoi. On aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, quoi. Citons également Wilson, qui fut l'ami de la reine Victoria et qui en 1819 est un des premiers à visiter Jérusalem, où il est d'ailleurs tué par un musulman qui lui lance une pierre du haut des remparts. Voyez-vous, déjà l'intifada, ça date pas d'hier. Dans le même temps, depuis l'Angleterre en particulier, on assiste dans le courant du siècle à un afflux de missionnaires dans cette région du monde. D'abord parce que nous allons voir ça les prochaines fois, le 19e siècle et l'époque de la grande expansion missionnaire. Alors, il va y avoir l'Afrique, qui est un pays aussi inconnu, terra incognita, mais l'Orient l'est autant que l'Afrique. Alors, on envoie des missionnaires en Afrique, pourquoi on n'en enverrait pas au Moyen-Orient, pour évangéliser les musulmans et pour évangéliser les juifs? Et notamment, n'est-ce pas, il y a l'idée que évangéliser les juifs, c'est quelque chose de plus important encore que d'évangéliser des non-juifs, parce que de la conversion des juifs, entre guillemets, je mets conversion entre guillemets, mais c'est le terme qu'on emploie à cette époque-là, dépend les choses dernières. C'est quand les Juifs se convertiront qu'ils seront rassemblés dans leur pays, c'est quand ils se convertiront que Jésus reviendra. Par conséquent, évangéliser les Juifs, c'est hâter le retour de Jésus. Et c'est pourquoi donc, de nombreuses missions parmi les Juifs se créent à cette période du XIXe siècle. Nous avons vu que l'Église anglicane avait créé un évêché juif, un évêché à Jérusalem, tenu par un juif. D'ailleurs, l'Église existe encore, c'est la Christ Church, pour ceux qui connaissent à côté de la porte de Jaffa. Il est évident que le succès de ces missionnaires est assez limité. Ils sont souvent lapidés, tant par les juifs que par les arabes, et pratiquement, ils ne font rien là-bas. Alors, devant l'échec de l'évangélisation proprement dite, eh bien, ils vont créer des œuvres sociales, hôpitaux, écoles, etc. Ils vont se livrer à l'archéologie pour occuper leur loisir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Archéologie, étude de la Bible, étude du pays, de la botanique, de la zoologie, etc. Et il va y avoir tout un travail d'érudition qui va naître à partir, justement, de ces missionnaires qui sont en poste en Orient, et qui vont contribué à l'essor des sciences bibliques et des études bibliques qui va marquer aussi le 19e siècle et le 20e siècle à partir justement de la redécouverte de la Terre Sainte. Au moment de sa visite en Israël dont nous avons parlé, le Kayser construit une église luthérienne qui est l'église de la, et une église catholique, l'église de la Dormition sur le Mont Sion, et puis le fameux hôpital Augusta Victoria sur le Mont des Oliviers, Augusta Victoria, du nom de sa femme. Jérusalem devient dès lors le centre mondial de la mission. Côté catholique, on n'est pas en reste. La France se fait reconnaître par le sultan protectrice des lieux saints et des catholiques, surtout des maronites au Liban. Les Russes sont protecteurs des orthodoxes. Ils créent à Jérusalem ce qu'on appelle l'enclos russe, avec la grande église russe qui se trouve encore là-bas, rue de Jaffa. Et ils rêvent de reconstituer l'Empire byzantin au moment de la désintégration de l'Empire ottoman. Quant aux Anglais, ils deviennent les protecteurs des Juifs et favorisent le travail des missionnaires au milieu d'eux. En 1877, s'installe en Israël une secte particulière qui s'appelle la secte des Templiers, qui sont des Allemands, qui essayent de cultiver le pays. Ce sera l'échec aussi, bien qu'il en reste un petit quelque chose encore aujourd'hui. En 1890, un certain Wallace visite la Terre Sainte. Il est venu pour écrire un roman sur Jésus, et le fameux Bénur, qui va être le résultat de cette visite, a été écrit après le voyage que Wallace a effectué sur place au lieu saint. Alors, tout au long du 19e siècle, il y a un flot de pèlerins. J'ai cité Chateaubriand tout à l'heure, mais citons d'autres Français de renom, notamment Lamartine et Pierre Loti, qui vont visiter la Terre Sainte pour retrouver la foi perdue de leur enfance. Pierre Loti, qui était d'origine protestante, tout demeurant, s'appelait Julien Viau de son véritable nom, Pierre Loti étant un nom d'auteur, était officier de marine, et donc visite plusieurs mois la Terre Sainte, et puis finalement, c'est l'échec total. Il passe une nuit au Mont des Oliviers, s'attendant que là, le Seigneur va se révéler à lui d'une manière particulière. Tout ce qu'il va obtenir de cette nuit, ça va être une frousse terrible quand il entend des grognements sortir d'un tombeau qui était non loin de l'endroit où il s'était arrêté. C'était tout simplement un arabe qui avait élu ce tombeau comme pour y passer la nuit et qui faisait des cauchemars vraisemblablement. Enfin, ça a glacé le sang de Pierre Loti et qui a pris ses jambes à son cou, qui est reparti le plus rapidement possible. Bon, échec. Lamartine, lui, arrive dans un moment d'une épidémie de peste avec sa fille qui est emportée par l'épidémie. Donc c'est aussi l'échec. Le comte de Lille visitera aussi la Terre Sainte dans un voyage d'un périple beaucoup plus ample qui va d'Égypte en Mésopotamie. Bon, le récit fantaisiste qu'il en fait n'est guère crédible. Enfin, il y a ce flot de pèlerins qui apporte au pays d'Israël un minimum de prospérité. Et là va naître un phénomène tout à fait intéressant à cette période-là. C'est que le pays d'Israël, par rapport à tous les pays du Moyen-Orient, va être celui qui va progresser le plus économiquement. Le Moyen-Orient, à cette période-là, est dans un état délabrement misérable. C'est vraiment une région ultra pauvre, et le pays d'Israël l'est aussi. Mais le flot des pèlerins, qui va aller en s'accroissant tout au long du siècle, va faire que le pays ne tombera pas complètement dans l'oubli, et puis connaîtra un minimum de prospérité dont vont profiter les pionniers juifs quand ils vont revenir dans le pays. Et là, donc, ce qu'Eschler avait annoncé se réalise. Les nations, malgré elles, contribuent à ramener le peuple juif dans son pays, bien que ce n'était évidemment pas ni le but d'un Chateaubriand, ni d'un Lamartine, ni d'un Pierre Loti, ni d'un Wallace, ni de ces missionnaires même qui venaient pour évangéliser les juifs. Voilà, si vous voulez, en gros, tout ce qu'on peut dire de cette renaissance d'Israël à cette période du XIXe siècle et la contribution des chrétiens dans ce domaine-là. Ça fait partie de l'histoire de l'Église. Ce n'est guère enseigné en histoire de l'Église, mais je crois que ça vaut de l'être. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce dernier point ?